La rencontre spirituelle aujourd'hui sera question de Saint Benoît d'Agnan, très peu connu malheureusement, bien que ce soit le second fondateur, si on peut dire, du monachisme. Et le monachisme, c'est l'ensemble des monastères, des règles de moines qui ont eu une importance énorme dans la civilisation occidentale, dans l'établissement même de la démocratie. Ça peut vous paraître surprenant. Et c'est un bénédictin, Saint Benoît d'Agnan, le même nom que Saint Benoît de Nursie, fondateur des bénédictins, quelques siècles avant lui. Et Saint Benoît d'Agnan, lui, est mort en 821. C'est un réformateur, un homme de grand courage, et qui a été très très près de l'empereur d'Occident, très près de du pouvoir, tout en étant un homme de prière, d'humilité et de désir de sanctifier l'Occident. C'est un homme beaucoup plus important, malheureusement, que ce qu'on pense. C'est drôle qu'il soit oublié comme ça. Je ne comprends rien là-dedans, moi. Dans des mélanges bénédictins publiés en 1947 que j'avais acheté à... Mon Dieu, j'avais acheté ça en Catalogne, à Barcelone, dans le temps. Ça avait été publié à l'occasion du 14e centenaire, voyez-vous, 14e centenaire de la mort du premier Saint-Benoît, Saint-Benoît de Nursie. Ça avait été publié par les moines, les bénédictins de l'abbaye de Saint-Jérôme de Rome. Et on y trouve des détails très intéressants, en particulier par Don Vinandi, qui s'est fait ermite à un moment donné, qui a été abbé de Clairvaux, dans le Luxembourg. Et il parle de l'œuvre monastique de Saint-Benoît d'Agnan en des termes extrêmement élogieux, en dépit de certaines critiques qu'il a reçues à travers l'histoire, mais il défait tout ça, il décortique tout ça. Il faut dire que malgré l'universalité de ce grand phénomène qu'est le monachisme et les monastères d'un bout à l'autre du monde, ben, c'est un phénomène qui n'est ni compris et souvent qui n'est pas admis par les gens. Les gens disent, ah, ils vont perdre leur temps, ils vont s'enfermer dans des monastères, ils font rien. C'est un état d'esprit qui est pas nouveau. C'est pas d'aujourd'hui que les gens disent ça. C'est pas non plus propre au monde chrétien, parce que les siècles les plus fervents ont toujours eu à l'endroit des ordres religieux une attitude plutôt réticente et parfois moqueuse même. Et pour tout dire, anticléricale. Et c'est une attitude que les mêmes causes, vous savez, les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Bien, c'est une attitude qu'on retrouve dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Pensez-y, le prêtre, comme le médecin, ce sont des gens qui sont à la fois craints, révérés, mais très acerbement critiqués. Alors, quoi dire alors du moine? De celui qui se replie au désert, hein? Et justement qui déserte le monde, hein? Que de critiques, que d'incompréhension. J'ai déjà été moine, vous le savez, pendant 2 ans, de 18 ans à 20 ans. Je me souviens de mes confrères de classe, j'avais quitté après la rhétorique, le collège Brébeuf, et eux étaient en philosophie, ils venaient me voir, puis disaient, mais qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas rentré chez les jésuites? Toujours les mêmes questions, hein? D'ailleurs, il y a une preuve entre mille dans toutes les langues d'Occident. Il y a des mots, des expressions qui se rapportent à la vie monastique. On parle de boire comme un templier, gras comme un chanoine. Les chanoines, c'était les chanoines réguliers, ceux qui vivaient dans des monastères. Puis toutes sortes d'expressions comme ça. Mais c'est... Le fait caractéristique de ces expressions qui sont peu flatteuses à la vie monastique, ça remonte au Moyen-Âge, c'est-à-dire à une époque où, à n'en pas douter, la foi était vive. La foi était sincère, oui, aussi bien chez les croyants que chez les religieux, d'ailleurs. Mais l'état d'esprit qu'elles impliquent, ça correspond bien à une espèce de sentiment constant qu'on retrouve, là, qui liait la nature des choses. Alors les moines ont toujours cherché à se réformer, justement, devant ces critiques, si on peut dire. C'est une réaction classique de la société contre les groupes marginaux minoritaires. Parce que les moines sont minoritaires, c'est des groupes marginaux qui s'en a pas. Et on dit la même chose souvent des artistes. À quoi ça sert des artistes? Ce sont des fous, des malades. Les saints, ce sont des gens à part, c'est inimitable, et ça vaut pas la peine de s'en occuper. Heureusement, il y a un retour à de faveur pour les saints, là. Et puis, souvent, les inventeurs aussi sont considérés comme des gens un peu étranges, hein. Les gens qui sont à part, hein. Ça menace la quiétude un peu bourgeoise de l'ensemble de la population. Et puis, ces gens-là sont comme des reproches vivants aussi, les moines, hein, comme les artistes, les saints. Et l'anticléricalisme apparaît comme inhérent à toutes les sociétés, particulièrement l'anticléricalisme à l'égard des moines. La différence, dans une certaine mesure, puis la nouveauté de la situation quand apparaissent les moines, tient à ce que, par surcroît, aujourd'hui, depuis la Révolution française, les valeurs mêmes du monde des religieux nous sont, dans bien des cas, devenues complètement étrangères, particulièrement ici, au Québec, depuis quelques années. C'est quelque chose d'effrayant. Quelle signification peut avoir, en effet, le principe des vœux, mettons, promettre obéissance, quelle horreur, hein, la chasteté, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, puis la pauvreté, bien, c'est pas ce qui est recherché par la plupart des gens, hein. Qu'est-ce qu'ils font à s'engager solennellement, eux, ces hommes-là, vis-à-vis de Dieu, dans une société qui exalte l'individualisme? Pourquoi briser sa vie? Pourquoi fuir en avant? Pourquoi pas s'occuper du temps présent, concret, là? Alors que peuvent signifier les mots pauvreté, chasteté, humilité, dans un monde qu'enivre et appauvrisse la richesse, les rosses, l'orgueil et tout ça? Notre monde est pauvre au creux de sa richesse. Notre monde est pauvre au creux de son orgueil et de sa suffisance et son insignifiance. Ce sont des paroles que je viens de prononcer, mais qui sont celles que j'ai extraites, grosso modo, d'un ouvrage écrit par un agnostique qui vient de mourir il y a quelques années, Léo Moulin. C'est un ouvrage qui s'appelle « Le monde vivant des religieux ». Il avait pris la défense des dominicains, des jésuites, des bénédictins, etc., chez Calman Lévy, il y a bien des années. Parce qu'il dit au dos du livre « Les religieux ont bâti l'Europe » et c'est un fait qui n'a pas suffisamment été mis en lumière. Sans eux, sans cette prodigieuse assistance technique qui assurait elle-même sa propre accumulation primitive pré-capitaliste, eh bien, les mœurs, dit-il, et les institutions européennes, puis je dirais ici même, ne seraient pas ce qu'elles sont. Quelles ont été les voies d'une telle évolution? Bien autant de questions, parmi bien d'autres. Et qu'il développe dans ce livre admirable, où ce que je vous ai plus ou moins lu, c'est pas vraiment lu, là, et presque textuel dans ce livre de Léo Moulin, qui n'est pas n'importe qui, hein. C'est un homme qui écrit des ouvrages très, très importants comme Analyse sociologique des prix Nobel de sciences, La société de demain dans l'Europe d'aujourd'hui. Il a fait ses études à l'Université de Bologne, mais c'est un Bruxellois, c'est un docteur en philologie classique, licencié en sciences politiques, qui a milité dans les rangs du socialisme, aux côtés de Paul-Henri Spaak, et puis il a été antifasciste en Italie, il a été emprisonné dans les années 30, et il a beaucoup travaillé à l'UNESCO, etc. C'est un agnostique remarquable qui était l'ami du cardinal Danils et avant ça du cardinal Sunens. Oui, un agnostique. Eh bien, pour parler aujourd'hui de Saint-Antoine, de Saint-Benoît d'Anian, abbé réformateur des bénédictins, eh bien, nous avons à nous placer d'abord au 8e siècle, donc dans les années 700. On peut apercevoir à un moment donné, dans les armées de Charlemagne, un jeune seigneur. C'est le fils d'un comte. Il est issu d'une famille noble, établie dans la Gaule. C'est Benoît. C'est son nom, Benoît. Comme le grand saint Benoît qui a fondé les Bénédictins il y a plus de 1400 ans. Il a été élevé à la cour de Pépin le Bref. C'est le père de Charlemagne, je crois, n'est-ce pas? Et qui en avait fait son échanson, c'est-à-dire celui qui s'occupait de son bon vin. Et il a d'ailleurs été aussi plus tard avec Charlemagne. Et ces deux rois l'ont comblé, tous les deux, de richesse et d'honneur. D'ailleurs, à l'âge de 20 ans, vers, disons, 770, le futur Saint-Benoît d'Agnan, ce jeune seigneur, décide de quitter le monde. Mais il attend. Il demeure donc encore 3 ans. Oh, comme on dit dans des vieux textes, il y est là plus de corps que d'esprit. Ça nous arrive, hein? Quand notre esprit rêve au changement, puis notre corps a de la misère à suivre. Il ne parle de son projet qu'à Dieu seul. Il prie. Et il essaie de vivre dans le monde la solitude. Il s'engage, comme un bon chrétien, à garder la chasteté parfaite. C'est pas de la niaiserie. La chasteté forme, transforme, élargit les horizons, libère de soi-même, transforme tout l'être, la chasteté. Il réprime sa langue aussi, qui est un instrument du diable, la langue, quand elle sert à faire des choses stupides, presque comme de tuer la réputation de quelqu'un. C'est terrible. Il se prive de nourriture et de sommeil, puis il examine quel genre de vie il veut embrasser, ou bien prendre l'habit de pèlerin peut-être, il rêve à ça. Vous savez, comme les jeunes aujourd'hui, ça a été la mode il y a 20 ans, c'est prendre l'habit de pèlerin, s'en aller en Asie, ou bien entrer dans une espèce de communauté de type plus ou moins monastique, mais où on gardait le sexe en grande valeur, et puis on appelle ça des communes, hein? Ou bien vous laissez se louer comme domestique pour garder les troupeaux, devenir un berger très humble. Ou bien il a pensé de se faire cordonnier dans une ville pour avoir de quoi donner aux pauvres. Il hésite. En 714, disons vers l'âge de 25 ans, 24 ans, il se trouve avec un de ses frères à la conquête que Charlemagne fait du royaume de Lombardie, là, dans le nord de l'Italie. Son frère, c'est un audacieux. Un jeune audacieux qui essaie sans réfléchir de traverser une rivière, il risque de se noyer. Alors Benoît, qui n'écoute que sa tendresse pour son frère, hein, il pousse son cheval dans l'eau, puis il prend son frère par la main, mais le courant est assez fort, puis en voulant le sauver, il se met lui-même dans un péril épouvantable, et c'est d'autant plus grave que celui qu'il veut sauver, c'est son frère. Alors son dernier recours, c'est de prier, de crier vers Dieu. Et là, il fait le vœu de se consacrer à Dieu le reste de sa vie, si Dieu veut bien le délivrer du danger où il est mal pris, là. Et il risque de perdre sa vie, justement. Alors, il est tout de suite exaucé. Un peu comme ce jeune homme dont on parle dans les journaux ces jours-ci, qui a été exaucé en 1987 à Lourdes. Et la reconnaissance ne lui permet pas d'attendre davantage, d'accomplir son désir de se retirer du monde et des honneurs. Mais pour éviter les obstacles, quand il est de retour dans son pays, il parle pas de son projet, sauf à un saint religieux aveugle qui s'appelle Wittmar. Et par son conseil de ce vieil aveugle, vous savez, les vieux aveugles ont souvent de très bons conseils à nous donner. Ce sont souvent des sages, eux, qui vivent dans le noir. Eh bien, Benoît fait semblant de faire un voyage à Aix-la-Chapelle, où le roi a sa cour à l'époque. Hein? À Aix-la-Chapelle, oui. Et en y allant, il entre dans le monastère de Saint-Seine, comme la Seine, S-E-I-N-E, en Bourgogne. Puis il décide d'entrer, alors il renvoie les gens de sa suite, parce que c'est un noble. Hein? Puis il se fait moine tout de go, comme ça. C'est en 774. Donc, je vous ai dit, il a environ 24 ans, 25 ans. Saint-Benoît d'Agnan passe 2 ans et demi à Saint-Seine, dans une abstinence presque continuelle. Il est sévère à l'égard de lui-même. Hein? Il prend pour toute nourriture qu'un peu de pain, puis d'eau, puis il refuse le vin comme un poison. Pourtant, le vin, tout le monde en buvait. Et lorsqu'accable le sommeil, bien, il est quelquefois obligé de prendre du repos, mais il se couche sur la terre nu. Et souvent, il passe la nuit en prière, nu-pied, par le plus grand froid. Vous savez, les jeunes exaltés, c'est comme ça, c'est dangereux pour leur santé. Puis il demeure plusieurs jours, des fois sans rompre le silence absolument, garde le silence totalement. Mais ça nous arrive, nous qui vivons seuls, hein. On peut garder le silence pendant 10 jours, sauf pour répondre aux prêtres à la messe. Puis, il porte les habits les plus pauvres de la communauté, puis il ne change de tunique que bien rarement. Ce qui n'est pas nécessairement la bonne chose, à moins qu'il la lave. Hein. Et il aime tant l'humilité que si sa cucule, vous savez, son tablier, puis le petit capuchon là, est déchiré, bien, il y coud d'une pièce d'une autre couleur pour s'attirer la raillerie des autres religieux. Les autres religieux sont pas très gentils, certains d'entre eux. On raconte qu'il y en a qui ont craché sur lui, puis qui l'ont insulté, puis qui l'ont traité d'insensé. Et l'abbé décide de lui faire modérer sa vie trop rigoureuse. Alors, on a vu que Saint Benoît, le futur Saint Benoît d'Agnan, le jeune Benoît, s'est entré dans un monastère. Et puis, l'abbé trouve qu'il exagère dans ses pénitences. Il a de la difficulté avec lui. Alors, Saint-Benoît, qui n'est pas Saint-Benoît de Nursie, je le rappelle pour les gens qui viennent de Saint-Onésie, c'est bien Saint-Benoît d'Agnan. Lui répond que la règle de Saint-Benoît, parce que ce sont des bénédictins, est faite pour les commençants et les faibles. Et puis lui, il s'efforce de remonter à celle de Saint-Pacôme, aux plus anciennes et plus sévères. Mais il a quand même un grand besoin d'observer celle de Saint-Benoît, pour laquelle il a toujours de plus en plus de l'estime et de la vénération, finalement. Il mûrit assez rapidement. Puis il s'efforce de ramener tous ses frères. Alors, on lui donne la charge d'économe, parce que c'est un homme qui vient de la noblesse, de la cour. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de dons. Et puis, il s'acquitte de cette tâche de céleriers de façon si parfaite que l'abbé, qui meurt 5 ans et 8 mois après, ça fait déjà 5 ans et 8 mois que Benoît est entré au monastère, il est élu tout d'une voix, comme ça, pour remplir sa place, pour devenir abbé. Il a une 30aine d'années seulement. Ça arrive, hein? Mais sa façon de se conduire ne s'accorde pas tout à fait avec celle de ses religieux, hein? Et là, il les quitte secrètement, puis il retourne dans son pays. Parce qu'au fond, il veut être un vrai moine réformateur, mais il arrive pas avec ses moines. Alors, il se retire dans une terre qui appartient à sa famille, parce que sa famille est très riche, sur un ruisseau qui est nommé Agnan. C'est de là que vient son nom, Benoît d'Agnan, près d'une chapelle consacrée à Saint-Saturnin. Puis là, il y bâtit un petit monastère avec quelques autres solitaires. Puis le principal solitaire qui vient, c'est ce fameux Vitmar, cet aveugle, ce vieil aveugle dont je vous ai parlé, qui lui avait conseillé de se faire religieux. Et là, Saint-Benoît a fait ce premier établissement vers l'an 780, donc à 30 ans. Hein. Il y passe quelques années dans une grande pauvreté, puis il demande à Dieu jour et nuit le rétablissement de la vraie discipline monastique bénédictine. Il y a dans le voisinage 3 hommes de grande vertu qui ont des noms, je dirais pas abracadabrants, c'est pas poli, mais des noms curieux. Je vous recommande pas de donner ces noms à vos enfants. Attilion, Nibride et Agnien, qui vivent très religieusement, sans avoir connaissance des observances régulières de Saint-Benoît, là, de Nursie. Alors, notre Benoît les consulte quand il a des problèmes, principalement à Tillion, qui est le plus près, lui. Et c'est comme ça que commence le célèbre monastère qui va prendre le nom du Saint-Sauveur du monde. Saint-Sauveur, monastère du Saint-Sauveur. Parce qu'il est dédié, et celui d'Agnan aussi, à Jésus, à cause de sa situation sur la petite rivière, il s'appellera le monastère d'Agnan, Saint-Sauveur d'Agnan. Plusieurs personnes se présentent d'abord pour vivre sous la conduite de Benoît, mais la nouveauté de ce genre de vie les décourage. Quand on les oblige à prendre le pain au poids, il faut peser son pain, il ne faut pas en manger plus que ça. Et puis, le vin, ben il faut le mesurer aussi. Ils sont pas habitués à ça. Puis, finalement, ils se découragent, ils abandonnent et retournent dans le monde. Mais Benoît est troublé par leur peu de ferveur. Ah, le peu de ferveur de ceux qui se présentent, là. Puis il désespère du succès de son entreprise. Il veut retourner à son monastère de Saint-Saëns à un moment donné. Mais à Tillion, qu'il consulte sur cela, Il fait connaître que c'est une tentation du démon. Il l'encourage à poursuivre son projet. Il faut maintenir la réforme. Il continue donc dans le même endroit avec un petit nombre de moines que sa réputation lui attire, car un saint fondateur attire. Et il leur montre l'exemple de tout. Il se contente pas de dire qu'il faut faire ça, il le fait. Et il le pratique. Alors les moines travaillent de leurs mains, lui aussi. Et ils ne vivent ordinairement que de pain et d'eau. Ils ne boivent du vin que les dimanches, les jours de fête. Ils mangent seulement quelquefois un peu de lait que des personnes du voisinage leur apportent. Ils ne possèdent ni terre, ni vigne, ni bétail, ni chevaux. Ils n'ont rien de toutes les commodités de la vie. C'est terrible, ils sont vraiment exagérés dans un sens. Mais cependant, les disciples de notre Benoît augmentent tous les jours quand même. Sa réputation se répand de tous côtés, puis la vallée où il est établi est d'abord trop étroite. Et puis il commence à bâtir un peu plus loin un monastère nouveau, dans un endroit plus vaste. Et là, le monastère est grand et spacieux. Mais les bâtiments sont pauvres, mais convenables. Mais vous allez voir, ça va changer petit à petit. L'église est dédiée à la Très Sainte Vierge. Il observe en toute chose là, la simplicité religieuse. Il ne veut pas qu'on s'y serve ni de calice d'argent, ni de chasuble de soie. Il donne beaucoup à ce monastère. Et on donne beaucoup aussi. Il reçoit toutes sortes de dons. Et Benoît reçoit des terres. Mais il ne veut pas accepter les serres. Vous savez, les serres, les seigneurs avaient des serres, hein, qu'on veut lui donner pour travailler. Alors, ou bien, s'il les reçoit, il leur rend aussitôt la liberté, à moins qu'il n'entre au monastère. L'exemple de Benoît emballe plusieurs autres saints personnages des environs, et non seulement dans les environs, mais encore un peu plus loin. Et ces hommes assemblent des moines, et puis ils vivent selon ses instructions, la réforme bénédictine. Saint Benoît leur sert de père, un nouveau Saint Benoît. Il les assiste, non seulement de ses conseils, mais aussi de ses générosités, parce qu'il reçoit beaucoup de dons. Puis il a de l'argent de famille qui lui arrive aussi. Il les visite aussi quelquefois pour les encourager puis les soutenir. Et il voit que il y a plusieurs monastères dans le pays qui surgissent. Et Saint-Benoît d'Anian devient le chef de tous ces monastères, aussi bien de quelques autres dans des lieux plus éloignés. Et de ce nombre sont ceux de Jelloni, d'Inde, de Belcel, de Mormont-l'Air. Ce sont des monastères disparus, mais il y en a qui existent encore. Hein? Et il est chef de nombreux monastères. Saint-Benoît d'Anian est aidé par ces trois solitaires là qu'il a d'abord trouvés, là, Attilion, Nibrid et Anien. Et Attilion devient, lui, abbé de Saint-Ibéry, Nibrid de Crasse. Imaginez un monastère qui s'appelle Crasse, chose étrange. Et Anien est fondateur et abbé de deux autres monastères, à savoir Saint-Jean d'Exter et de Saint-Laurent de Liberge. Alors, celui d'Anian grandit toujours, et Benoît, aidé par la générosité de plusieurs seigneurs, décide de détacher du monde par la beauté de la maison du Seigneur plusieurs personnes qui méprisent sa pauvreté et sa simplicité. Alors là, il se dit, c'est peut-être mieux que mon monastère soit plus beau et que ces gens-là viennent et sauvent leurs âmes. Alors, il commence donc à bâtir une église plus magnifique. Hein? En l'an 782, il fuit la stricte pauvreté qui fait fuir trop de gens. Il renouvelle aussi le cloître, il met des colonnes de marbre dans les galeries, il fait couvrir les bâtiments de tuiles, vous savez, des belles tuiles, au lieu que, jusqu'alors, la couverture n'avait été que de paille, de chaume, si vous voulez. Cette église est dédiée au Saint-Sauveur, toujours. Les ornements vont par sept chandeliers à sept branches, sur le modèle de celui du tabernacle de l'Ancien Testament dans le temple. Sept lampes devant l'autel, sept autres dans le chœur, en sorte que, aux grandes solennités, l'église est magnifiquement éclairée. Hein? Vous savez que c'était fantastique. Je le dis pour les jeunes, il n'y avait pas d'électricité il n'y a pas si longtemps, et tout était éclairé avec des chandelles. C'était extraordinaire, c'était très beau. Il y a de grands calices d'argent, des habits précieux et tout ce qui est nécessaire pour le service divin, comme on dit. Et là, la communauté d'Anian s'accroît tellement, il y a tellement de vocations, convoie en même temps plus de 300 religieux sous la conduite de Saint-Benoît. Vous savez qu'il y a eu des monastères où il y avait plus de 1000 religieux même, plus tard. Alors, il fait construire des bâtiments très vastes, longs de... hauts de 50 mètres, et larges de 10, qui comptent plus de 1000 personnes. Il établit même encore en divers endroits des petits monastères ou des prieurés auxquels il donne des supérieurs particuliers. Les prieurés ont à peu près 6-7 moines. Et des évêques, par la suite, lui demandent de ces moines pour servir d'exemple aux autres. Il en envoie plusieurs auprès de l'archevêque de Lyon pour rétablir le monastère qui est établi sur une île, l'île Barbe. L'évêque d'Orléans lui en demande aussi pour le monastère de Missy ou de Saint-Mémin, étrange nom. Et Alcuin, le fameux Alcuin, très grand intellectuel qui est lié d'amitié avec notre saint, qui est un intellectuel aussi, ben on obtient 20 religieux grâce auxquels il fonde l'abbaye de Cormery. Mais la plus illustre colonie de Saint-Benoît, c'est le monastère de Djelon, fondé en 804 par les libéralités de Guillaume, duc d'Aquitaine, qui s'y retire lui-même, ce qui lui fait donner le nom de Saint-Guilhem-du-Désert, qui est à visiter. Il y a des guides, là, à Saint-Guilhem-du-Désert. C'est très beau. Il faut voir ça en France. Magnifique monastère qui existe toujours. Et la réputation, donc, de notre Saint-Benoît d'Aniane parvient jusqu'à la cour du roi. Et là, il va trouver le roi Charles. Et il veut pas que ses parents ou d'autres mettent la main sur son abbaye, sous prétexte après sa mort. Il veut se mettre sous la protection de ce roi. C'était comme ça à l'époque. Et le roi lui donne un privilège, ou si vous voulez, une immunité, suivant l'usage de ce temps-là. Là, c'était comme ça. Et le roi donne encore à Benoît des terres autour de son monastère, puis il le renvoie avec beaucoup d'honneur. Puis il lui fait don d'argent qu'il va donner aux pauvres et aux monastères qui en ont besoin. D'ailleurs, le grand soin que Saint-Benoît prend des... Saint-Benoît d'Aniane... prend des pauvres, là, fait que tout le monde lui porte aussi un peu de choses pour nourrir son monastère, pour nourrir des pauvres prêtres qui viennent, puis des moines de toutes sortes qui se promènent. Dans ce temps-là, il y avait des moines un peu girovagues, comme on dit, qui se promenaient. Puis, il essaie de les instruire, tout ce monde-là, des choses saintes, de faire qu'ils deviennent de meilleurs chrétiens, ces prêtres, ces laïcs, ces moines étranges. Sa charité sans borne, hein. Il a la confiance de tous ses disciples dont il est le recours dans leurs tentations, ces moines. Il a beaucoup diminué ses grandes austérités, là, dont il a fait preuve quand il était plus jeune. Il a commencé à comprendre, il s'est rendu compte que c'était impossible de soutenir tout ça, mais... Il ne cesse pas de travailler avec les autres et de creuser la terre lui-même, labourer, moissonner. Et malgré la chaleur du pays, il se permet à peine de boire un verre d'eau, ce qui n'est pas très bon. Il aurait dû en prendre un peu plus avant l'heure du repas. Et puis, il demande à ses moines de faire comme lui. Hein? Alors, les moines n'osent pas murmurer parce qu'ils l'admirent beaucoup, mais ils savent qu'il n'est pas indulgent à l'égard de lui-même. Il est un exemple. Et soit pendant le travail, soit en y allant ou en revenant, on ouvre la bouche que pour chanter des psaumes. Depuis le jour de sa conversion, jamais il n'a mangé de ce qu'on appelle des grosses viandes rouges, là. Dans ses maladies, il prend du bouillon de volaille. Il croit que ça, c'est pas défendu par la règle. C'est un homme un peu strict et trop sévère, à mon avis. Mais ça prend souvent des gens comme ça pour faire les réformes. Dieu choisit ces gens-là souvent. L'histoire de l'Église en est pleine. Le voisinage de la Catalogne, là, qui est au sud de la France et puis en Espagne, la Catalogne, hein, le voisinage expose la province du Languedoc au danger d'être infectée par l'hérésie de l'évêque d'Urgel, Félix, qui nie que Jésus-Christ soit vraiment le Fils de Dieu depuis toujours, mais qu'il l'est seulement par adoption. Alors là, il y a des disputes avec le roi Charles, le pape, qui essaie de convertir cet évêque, et Saint-Benoît d'Aniane y essaie aussi. C'est une longue histoire, et finalement, On trouve, après la mort de cet évêque qui a été déposé, puis malgré qu'il se soit soumis, on trouve dans ses écrits une formule de foi contraire à celle qu'il avait prononcée dans l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, ce qui laisse croire qu'il est mort hérétique comme Monseigneur Lefebvre. Louis, dit le débonnaire, dernier fils de l'empereur Charlemagne et roi d'Aquitaine, décide de travailler à rétablir dans ce royaume la discipline monastique. Alors là, il confie le soin à Saint-Benoît d'Agnan. Il y a quelques monastères qui sont entièrement déchus de la discipline primitive. Vous savez, on a toujours eu ça. Ça a toujours existé, les monastères où tout à coup, on dirait que le démon pénètre d'une façon épouvantable. Alors, on n'y connaît plus la règle dans ces monastères, ni les pratiques que l'on a admirées autrefois. Les religieux se contentent de vivre, dit-on dans les vieux textes, en chanoine, sans beaucoup de régularité. C'est pas très gentil à l'égard des chanoines réguliers de l'époque. Hein. Les chanoines réguliers, c'est des chanoines qui suivent une règle. Hein. Vous en entendez d'ailleurs sur les émissions de M. Barbin le matin qui chantent, hein, les chanoines réguliers du Grand Saint-Bernard. Alors, notre saint Benoît les réforme tous, ces monastères-là. Mais un si grand succès suscite l'envie de quelques ecclésiastiques et de quelques seigneurs de la cour, qui sont des, on dirait aujourd'hui, des bourgeois, et qui tâchent de lui faire une mauvaise réputation auprès de l'empereur. Alors, il est obligé d'aller à la cour, se libérer des accusations qu'on a formulées contre lui. Mais pour le détourner d'y aller, on l'assurait que l'empereur était déjà bien mal prévenu contre lui et qu'on ne recevra pas. Pourtant, il y va. Et le roi le couvre de marques d'estime et d'affection parce qu'il voit bien que c'est un saint. L'abbaye d'Agnan n'arrive plus à nourrir tous les religieux, il y en a trop. Et il y a du monde qui veut rentrer tous les jours. Louis le débonnaire lui donne les trois monastères de Mena en Auvergne, de Saint-Savin. Oh, Saint-Savin, c'est magnifique dans le diocèse de Poitiers. Êtes-vous déjà allé voir ça? Ah, les peintures sur la voûte, peintures romanes, magnifiques. Saint-Savin, donc, dans le diocèse de Poitiers, et de Massé, dans le Berry. Et Saint-Benoît, douze de ses religieux dans un prieuré d'une petite dépendance de Menala. Et Dieu donne tant de bénédictions à cet établissement que cette communauté de Menala s'agrandit par la conversion de 70 personnes qui y prennent l'habit d'un seul coup. Ça rappelle l'entrée de Saint-Bernard à Citeaux avec je sais pas combien de gens, 25-30 personnes. De sorte qu'on est obligé de les envoyer dans le monastère. Là, et puis, pour se former, puis il revient à Mena, qui est, devient un grand monastère, extraordinaire. Il y en a un petit nombre qui deviennent des saints. Et le roi Louis le Débonnaire, qui a succédé à son père Charlemagne, à la couronne de France et à l'Empire, fait venir Saint-Benoît, puis lui donne en Alsace le monastère de Mors-Monterre, près de Saverne. Et il y met plusieurs religieux de son observance, tirés d'Agnan. Mais comme cet endroit est trop éloigné d'Aix-la-Chapelle, qui est la résidence ordinaire de l'empereur, et que Saint-Benoît lui est nécessaire pour le conseiller, pour toutes sortes d'affaires, il oblige Saint-Benoît de mettre un autre abbé là, dans son monastère, puis lui de se rendre auprès de lui avec quelques-uns de ses religieux, puis à 8 kilomètres de là, il y a une vallée qui plaît à Saint-Benoît d'Agnan, puis là, l'empereur, par complaisance, pour ce saint homme qu'il va avoir près de lui, il y fait bâtir un monastère que l'on nomme Inde ou Inden, d'un ruisseau qui y coule. Et l'empereur assiste à la dédicace de l'Église, qui est faite sous le titre de Saint-Corneille, pape et martyr. On avait ça dans la messe autrefois, Saint-Corneille. Ça nous faisait rire, les enfants, quand on avait 6 ans, Saint-Corneille. Et il y donne plusieurs terres. Il veut qu'il y ait 30 religieux qui sont tirés de différentes maisons. Et on voit même, pour ce pauvre saint qui veut vivre caché, il faut qu'il fréquente la cour et il reçoit les requêtes que l'on présente au roi. Puis de peur de les oublier, ben, il les met dans les manches ou dans une espèce de manipule que les prêtres portent encore ordinairement à la main dans ce temps-là. Ça va rappeler des souvenirs, un manipule. On voit plus ça aujourd'hui. On avait ça quand c'était jeune. Quand on était jeune, on mettait le manipule aux prêtres. Et l'empereur le fouille souvent pour prendre ses papiers puis les lire. Puis il le consulte non seulement sur les affaires particulières, mais encore pour le gouvernement de l'État, puis lui donne l'inspection de tous les monastères de ces États. Il devient le grand réformateur des bénédictins de toute l'Europe, finalement. Et c'est par son ordre qu'il travaille à une réforme générale avec plusieurs autres abbés, qui, après avoir longtemps conféré ensemble, trouvent que la principale, écoutez bien, la principale cause du relâchement de la discipline monastique, c'est la variété des règlements. On va toujours vers les règlements les plus faciles, puis on en trouve toujours des plus faciles ici et là, puis on fait finalement une vie facile. Même si l'on fait profession de suivre la règle de Saint-Benoît dans la plupart des monastères, il y a néanmoins bien de la variété dans la pratique de ce qui n'est pas écrit. D'où il arrive? D'où il arrive que l'on fait passer les relâchements pour d'anciennes coutumes autorisées? Bon, alors on se relâche. Et puis, finalement, on a bien de la peine à réformer tout ça. Et on croit donc que le plus sûr est d'établir une discipline uniforme par des constitutions qui expliquent la règle. Et ça s'exécute, ça, lors du concile d'Aix-la-Chapelle qui se tient en 817. Notre Saint-Benoît va mourir 4 ans plus tard. Dans ce concile, les évêques et les clercs dressent des règlements pour les chanoines, les abbés, les moines, tout ça. Puis c'est très étrange à lire et très intéressant. Ça va être observé dans tous les monastères pour établir une observance uniforme. Et Saint-Benoît d'Agnan, à qui l'empereur a donné la même autorité sur tous les monastères de France, et d'ailleurs qu'il a eu auparavant sur ceux du Languedoc et d'Aquitaine, qui ne faisaient pas partie de la France à l'époque, de sorte qu'il est comme le chef et le général. Il préside à l'Assemblée des abbés, où l'on dresse ses règlements, ses statuts, où les constitutions divisées en 80 chapitres. Voici des détails. Comme la règle de Saint-Benoît en est le fondement, on ordonne d'abord que les abbés présents à cette assemblée liront toute la règle avec attention. Ils se contentent pas de l'avoir sur une table. Ils la lisent. Et qu'ils en pèsent vraiment toutes les paroles pour en savoir parfaitement l'esprit, et que tous les moines qui le pourront seront obligés de l'apprendre par cœur, parce que c'est pas tous qui savent lire. On ordonne ensuite que l'on récite tous les jours l'office divin, comme il est prescrit par la règle de Saint-Benoît, que tous les religieux travailleront eux-mêmes à la cuisine, à la boulangerie, tous les autres offices de la maison. Les moines laveront et nettoieront eux-mêmes leurs habits. On ne leur fera pas raser. On ne se fera pas raser dans le cours de l'année que tous les 15 jours. Et pas du tout pendant le carême. Alors on laisse pousser la barbe et les cheveux. On arrive au samedi saint et là on coupe. Parce que les pénitents de ce temps-là, suivant la remarque de Don Mabillon, très grand savant qui a vécu beaucoup plus tard, ne rasaient pas leur barbe et ne coupaient pas leurs cheveux, et que les moines, qui sont dans une profession continuelle de mortification et de pénitence, doivent les imiter. C'est comme ça. Et pour cette même raison, il n'est pas permis de se faire saigner. Vous savez, se faire enlever un peu de sang. Il n'était pas permis de se faire saigner régulièrement en certaines saisons, etc. C'est très étrange à tout lire. Il est permis d'user du bain, donc de se baigner, à la discrétion du supérieur, mais non pas fréquemment, comme il était d'usage parmi les laïcs. Non, ils doivent se laver les pieds les uns aux autres par un esprit d'humilité, principalement pendant le carême, en chantant des anciennes et des psaumes de pénitence. Et tout ça est bien changé, comme vous voyez. Je vous lis ça, c'est pour vous montrer la mentalité des gens de cette époque, dont il ne faut pas nécessairement rire, j'en ris un peu. Mais c'était sincère. Ces hommes-là voulaient bien faire. Alors, on peut lire toutes sortes de choses. Il est permis aux pères et aux mères d'offrir leurs enfants au monastère et de faire pour eux la demande publique au pied des autels, car on donnait ses enfants à 4, 5, 6, 7 ans. Sainte Gertrude est entrée à 5 ans comme ça. Alors, si ses enfants sont offerts si jeunes, Eh bien, qu'ils ne soient pas en état de comprendre la grandeur de leurs engagements, ben, l'oblation ne doit pas être censée valable, à moins qu'elle ne soit ratifiée par celui qui a été offert lorsqu'il est parvenu à l'âge de raison. Alors, le petit moine ou la petite moniale doit, à l'âge de raison, dire oui. Un petit oui, qui ne l'engage pas pour la vie. Hein. Il ne doit pas y avoir d'autre école dans le monastère que pour ces enfants-là, qui, pour leur grande jeunesse, ont encore besoin, évidemment, d'éducation puis d'instruction. Mais les monastères ont aussi des écoles en dehors, et là, c'est en dehors du monastère qu'on éduque d'autres enfants. Ce sont toutes sortes de règlements sur la façon de recevoir les autres aussi, et ils disent qu'on ne doit user de punitions corporelles pour les religieux qui s'écartent là, de leurs devoirs ou qui ne veulent pas demander pardon, mais on ne peut pas les fustiger, les battre nus à la vue des frères. Étrange, hein? Comme il a été pratiqué longtemps avant le 8e siècle. Et ceux qui sont en pénitence pour de grandes fautes doivent être dans un logement séparé, avec une cour où ils peuvent travailler. Et on parle de l'habillement, comment ils doivent être habillés, etc. Pour la nourriture aussi, les moines doivent faire 2 repas les jours de fête, et aux grandes solennités, c'est-à-dire à Noël et à Pâques, 4 jours durant, ils peuvent faire des bons repas. Et on peut manger la volaille, même si elle est défendue dans le reste de l'année. Alors, comme vous voyez, on est très strict et très sévère. Et puis, on boit peu de vin. On vit très, 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 très simplement. Mais c'est cette réforme qui a transformé l'Europe, comme je vous ai dit au début de l'émission. Nous allons maintenant entendre un introït, Exurge, interprété par Damien Pueblo à l'abbaye du Toronnet. Exurge, alors, dans la réforme qui se fait comme ça sur des points de règles, il se fait aussi une réforme profonde sur le sens de la prière, sur l'approfondissement de la formation aussi. Et on va toujours de l'avant pour comprendre le sens de la règle et le sens de ces constitutions nouvelles et le sens de la vie monastique. Alors, Saint Benoît d'Agnan, comme je vous l'ai dit, devient le chef et le général de tous les monastères et de l'Empire. Là, ses statuts ou règlements ont été en si grande vénération, même au Mont Cassin, qu'on les y a gardés presque aussi exactement que la règle elle-même, la règle de Saint Benoît de Nursie. Ainsi donc, tous les monastères ont un protecteur, on peut dire, en la personne de Saint Benoît d'Agnan, dont c'est la fête aujourd'hui. Saint Benoît d'Agnan, qui règle si bien son monastère d'Inden, près d'Aix-la-Chapelle, que les religieux qui y viennent de divers pays s'instruisent sans qu'on leur dise un mot, simplement à voir la façon dont ils sont vêtus, leur façon de se déplacer, la démarche. Vous savez, quand j'étais au monastère dans les années 40, il y avait une façon de marcher. Une façon monastique de marcher, de fermer une porte, de s'asseoir. Tout devait respirer la paix, le calme. Alors j'imagine que c'était un peu ça qui régnait. Et toute la conduite de ceux qui habitaient le monastère impressionnait les visiteurs, moines d'ailleurs. On y observe exactement les règlements faits au concile d'Aix-la-Chapelle. Et pour aider davantage les moines, bien Saint-Benoît fait un recueil de toutes les règles monastiques connues sous le nom de « Code des règles » et divisé en trois tomes, dont le premier contient les règles des moines d'Orient, le second celles des moines d'Occident, le troisième celles des religieuses. Il fait aussi la concorde des règles. C'est un travail énorme, hein, où elles sont toutes rapportées au chapitre de celles de Saint-Benoît pour lui servir de commentaire. Ça sert de commentaire. C'est un travail énorme à cette époque. Tout ça se fait évidemment sur du vélin, à la main. Il n'y a pas d'imprimerie. Ça prend des copistes et tout ça. Alors, ces grandes austérités, ces travaux continuels, ces jeûnes, ces veilles, puis enfin la vieillesse, ont rendu Saint-Benoît d'Agnan très infirme. Il est attaqué de toutes sortes de maladies, qui évidemment l'éprouvent, mais il demeure serein, patient. Son amour pour Dieu est constant. Il continue à s'occuper continuellement. Il prie beaucoup. Il aime beaucoup la lecture. On lui trouve même toujours le visage baigné de larmes. C'est un don de Dieu qui marque bien l'esprit de pénitence qui l'a animé toute sa vie. 4 jours avant sa mort, Saint-Benoît d'Agnan est encore au palais, où il rend service à l'empereur, où il donne, comme d'habitude, des avis pleins de sagesse à l'empereur. La fièvre l'ayant pris, il se retire au logis qu'il a dans la ville, et le lendemain, il est visité par tous les grands personnages. Car c'est un homme extrêmement important à son époque. Il s'y trouve tant d'évêques et d'abbés de monastères, et un si grand nombre de moines, que c'est à peine si ses propres moines peuvent l'approcher pour le servir. Il y a un abbé qui est chancelier de l'empereur, et qui est de l'ordre des chanoines réguliers, qui y vient le premier, qui est très bon, et qui demeure auprès de ce grand malade jusqu'à sa mort. L'empereur envoie le soir un de ses chambellans avec ordre de le reporter à son monastère et il écrit encore à l'empereur pour lui donner quelques avis. Il se recommande aux prières de l'archevêque de Narbonne et de l'abbé d'Agnan qui lui a succédé, l'abbé Georges, auquel il écrit justement pour demander des prières. Enfin, il meurt le 11 février 821, à l'âge de 70 ans. Il est enterré dans son abbaye de Saint-Corneille-d'Indon, où l'on conserve ses reliques. On célèbre sa fête à Agnan même le 11 février, mais la plupart des martyrologes n'en font mémoire que le 12 aujourd'hui, le 12 février. Qui est le jour de sa sépulture. On raconte sa mort de façon extrêmement hagiographique dans certains livres, et ça n'offre, pour ainsi dire, aucun intérêt. Mais dans le livre de Léo Moulin dont je vous faisais part au début de l'émission, on y trouve des choses extrêmement sympathiques, et qu'il dit à la page 178 au sujet des moines, lui qui est agnostique, je vous répète, et un très grand politicologue et sociologue, pour moi, l'origine de nos techniques électorales et délibératives ne doit être recherchée ni à Rome ni à Athènes, ni dans les communes médiévales, ni dans les États généraux de France, ni dans le système parlementaire britannique, mais dans les pratiques de l'Église et des ordres religieux. Il l'a démontré dans son livre. Le monde vivant des religieux, probablement introuvable aujourd'hui, qui était paru à l'époque chez Calman Lévy et signé Léo Moulin, qui malheureusement est mort il y a quelques années, à peine 2 ans, je crois.